RCF.
Bonjour à tous. Passé la joie de la naissance, certains parents se rendent compte que leur enfant n'évolue pas comme les autres enfants. Que ce soit à la maison, à la crèche ou à la garderie, on constate que l'enfant est trop calme, ne réagit pas ou peu, qu'il semble indifférent au monde sonore et aux personnes qui l'entourent. Quand on l'appelle, il ne répond pas à son prénom, il ne semble pas non plus affecté par les séparations ou les retrouvailles, il sourit peu, reste silencieux, ne regarde pas dans les yeux et ne cherche pas à imiter les adultes. Ces signes ne sont-ils pas évocateurs d'une maladie ou d'un handicap, tel que l'autisme par exemple ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai invité Madame Christine Garnier, présidente de l'association Respire Bourgogne, qui aide et soutient les familles d'enfants ou d'adultes autistes. Madame Christine Garnier, qu'est-ce que l'autisme et quelle est son origine ?
Eh bien, bonjour. L'autisme, eh bien, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est présent in utero, c'est-à-dire que l'enfant, quand il naît, il a déjà ce trouble. L'origine est multifactorielle, comme on dit aujourd'hui. Il y a bien entendu des questions génétiques, mais on n'a encore rien pu identifier très clairement. Le trouble est plus ou moins important et va donc impacter de façon plus ou moins importante le comportement de l'enfant. Et on va se retrouver dans les troubles que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, justement, d'ailleurs, les troubles du neurodéveloppement qui apparaissent très tôt, comment les parents peuvent-ils les reconnaître ?
Alors, l'enfant, c'est vrai, comme vous le disiez, ne regarde pas, ne va pas répondre à son prénom, va être attiré peut-être par la lumière, va ne pas réagir quand on va vers lui, va rester dans son jeu, va pas chercher à aller vers les autres. Et ça fait partie, effectivement, des signes qui peuvent inquiéter les parents et qui vont les pousser à en parler à leur médecin généraliste, à leur entourage, etc.
Alors justement, quand on parle de médecin, en ce qui concerne le diagnostic, qui pose ce diagnostic ? Est-ce que c'est compliqué à poser comme diagnostic ? Et comment est-il déterminé ce diagnostic ?
Alors c'est vrai que le médecin traitant est le premier interlocuteur de la famille et donc va écouter les remarques de cette famille qui constate que leur enfant ne se développe pas comme les autres enfants, soit les plus jeunes de la famille ou les plus vieux. Et donc le médecin généraliste serait en capacité de pouvoir valider ou pas ses craintes de la famille. Sinon, s'il ne connaît pas assez l'autisme, il peut envoyer aussi cet enfant, ce qu'on appelle vers un niveau 2, en jargon. C'est tout
les établissements.
Voilà. Mais c'est un spécialiste ou bien tout simplement dans les CAMS, où là, il y a des professionnels qui
Alors,
sont...
Alors les CAMS, qu'est-ce que ça veut dire ?
Centre d'aide médico...
Spécialisé
ou... précoce.
Oui, c'est voilà. Ça, pour les maladies précoces. Oui.
C'est ça. Et sinon, si au niveau des CAMS, les médecins, les psychologues ne sont pas sûrs du diagnostic d'autisme, ils vont envoyer vers le centre de ressources autisme, CRA. Il y en a un en Bourgogne qui est situé vers les anciennes tanneries.
Et alors, justement, les premiers symptômes, à quel âge apparaissent-ils ?
Alors, dès la petite enfance, lorsqu'un adulte qui n'a jamais été diagnostiqué, mais en entendant parler, et puis certains médecins qui acquièrent des connaissances dans le domaine du repérage de l'autisme, vont dire à un adulte, eh bien, peut-être que c'est de l'autisme. Mais à ce moment-là, les psychologues et les médecins vont rechercher dans la petite enfance. En fait, tous ces signes apparaissent très, très tôt.
Et ce sont plutôt les garçons, les filles qui sont atteints ?
Il y a 4 garçons pour une fille.
Alors, les enfants qui souffrent de ce handicap, est-ce qu'ils développent un retard intellectuel également ? Ou bien, on parle bien sûr du syndrome d'Asperger, c'est-à-dire on pense que c'est une intelligence surdéveloppée ?
Alors oui, bien sûr, on voit Good Doctor à la télévision, mais on voit aussi Hors Normes au cinéma. Et donc, entre les deux, il y a tous les autistes qui ont leurs particularités. Alors, il y en a effectivement qui ont une intelligence hyper développée dans certains domaines, mais à côté de ça, ils vont avoir des difficultés pour s'insérer dans la société, pour aller voir les autres, pour être autonomes. Il y a des personnes qui peuvent vous réciter un livre sur la Grèce antique de telle date à telle date quasiment par cœur. Par contre, ils vont être incapables de prendre le bus.
Vous êtes bien sur RCF et dans le cadre de l'émission Santé Plus, je reçois Madame Garnier, présidente de l'association Respire Bourgogne, qui nous parle de l'autisme. Alors justement, on parlait de l'intelligence surdéveloppée, du retard intellectuel éventuellement, mais l'autisme, est-ce qu'on peut en guérir? Est-ce qu'il suffit de prendre des médicaments ou des traitements pour guérir de l'autisme?
Eh bien non, les traitements pour guérir de l'autisme n'existent pas. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un trouble du neurodéveloppement et qui peut générer un handicap qui va ne pas permettre à la personne de vivre la façon la plus ordinaire dans la société, dans la vie normale.
Alors donc, il n'y a pas de traitement, mais je pense qu'il y a des accompagnements qui peuvent être adaptés. En quoi consistent ces accompagnements?
Alors oui, les accompagnements sont basés sur les méthodes comportementales qui permettent justement de comprendre comment fonctionne la personne et de l'amener sur le fonctionnement idéal dans son environnement, que ce soit dans la famille, à l'école ou simplement sur son lieu de travail.
Ce sont des accompagnements psychoéducatifs, des accompagnements moteurs, des accompagnements qui s'exercent à la maison ou bien dans un autre lieu mieux adapté.
Alors pour la plupart, et c'est ce qu'on essaie de développer un maximum, c'est d'exercer toute cette rééducation au sein de la famille, dans son environnement naturel.
Et les enfants, est-ce qu'ils peuvent être scolarisés, s'ils le peuvent, à l'école normale, enfin dans un établissement scolaire ordinaire, ou bien alors il faut qu'ils aillent dans un établissement spécialisé?
Alors bien entendu, en tant que responsable, présidente d'une association, bien sûr, je milite pour que les personnes restent dans le milieu ordinaire et soient scolarisées dans le milieu ordinaire. Il y a des aménagements, des aides qui peuvent être apportées par les AESH. Ce sont des personnes qui sont salariées de l'éducation nationale.
Qui accompagnent
l'enfant à l'école, oui.
Donc pour favoriser le développement de l'enfant, il doit bénéficier d'un accompagnement diversifié avec sans doute une éducatrice spécialisée, une orthophoniste, une psychomotricienne, enfin différents accompagnements. Ces accompagnements doivent avoir un coût financier. Les parents bénéficient-ils d'une allocation spécifique ?
Alors là, on parle effectivement des accompagnements qui ont lieu en milieu ordinaire, parce qu'en établissement, normalement, tout est pris en charge par le département ou par l'Agence régionale de santé. Mais pour les personnes qui ont besoin d'accompagnement à leur domicile, eh bien, ils déposent une demande auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, et ils pourront obtenir soit la prestation de compensation du handicap ou un complément à leur allocation d'éducation d'enfants handicapés.
Alors, les familles qui vivent ce handicap, le handicap de leur enfant, aussi bien les parents que la fratrie, doivent se sentir bien isolées face à une situation inattendue, contraignante, épuisante, démoralisante. Madame Garnier, vous êtes présidente de l'association Respire Bourgogne. Quelle aide et quel soutien votre association peut-elle leur apporter?
Eh bien, l'aide dont a eu besoin ma famille quand Gilles a été diagnostiqué en 2008 à l'âge...
Gilles, c'est votre frère, je crois.
Gilles, mon frère, voilà, qui a été diagnostiqué à l'âge de 40 ans. Donc, on est passé par toutes les situations que vous évoquiez auparavant et nous avons trouvé la seule solution d'embaucher une personne à domicile pour soulager les parents et puis pour comprendre Gilles. Mais on a aussi bénéficié d'une formation, c'est-à-dire toute la famille est allée se former pour comprendre ce qu'est l'autisme. Et donc aujourd'hui, notre association propose des formations spécialement pour les parents et pour les professionnels aussi, bien sûr. Donc on en organise 3 ou 4 tous les ans à un tarif très 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 bas pour les familles. Et on a aussi développé depuis 2009 un service à domicile spécialisé dans l'autisme.
Alors justement, qu'est-ce que c'est exactement que ce service d'aide et d'accompagnement à domicile? Pourquoi vous l'avez mis en place?
Alors on l'a mis en place pour répondre aux besoins des familles qui n'avaient pas de place en établissement, à savoir les enfants sont diagnostiqués mais peuvent rester pendant 2 à 3 ans sans place dans l'établissement qui leur est indiqué, ce qu'on appelle les CESA de services de soins à domicile. Et donc nous, on intervient justement sur ces périodes-là, on intervient aussi auprès des adultes pour laisser respirer les parents, la famille.
Oui, d'ailleurs, votre association s'appelle Respire, c'est pour apporter un peu de répit.
Voilà, respire et dans le logo, on a aussi des comme si c'était du vent parce que on a chacun a besoin de respirer, que ce soit la personne autiste qui a besoin de sortir de chez elle, du giron des parents et puis les parents qui ont besoin de respirer aussi sans leur enfant. Mais ça veut pas dire qu'ils ne veulent pas s'occuper de leur enfant, puisqu'on vient là aussi pour les aider à comprendre le fonctionnement de leur enfant pour qu'ils puissent aussi s'en occuper.
Donc on a parlé de, vous avez évoqué les formations tout à l'heure et je crois que vous avez récemment créé un GEM, un groupe d'entraide mutuelle.
Oui, ce GEM est ouvert depuis le mois de septembre et donc il est destiné aux personnes autistes adultes, alors d'un niveau d'autonomie qui leur permet de se déplacer, qui verbalisent, etc. Et pour leur permettre justement de sortir de chez elles et puis d'apprendre les unes des autres. C'est le principe du groupe d'entraide mutuelle.
Alors justement, ce GEM dont on parlera à la prochaine émission, on le présentera, on présentera ses activités, on présentera le lieu, la personne qui s'en occupe et qui en est responsable. Ça sera le thème de notre prochaine émission. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie, Madame Garnier, de nous avoir présenté ce handicap, qu'est l'autisme, avec toutes les difficultés qu'il représente pour les familles qui cherchent, par tous les moyens, le bon mode d'emploi. C'est vous qui m'avez un petit peu appris ce terme-là, le bon mode d'emploi pour comprendre comment fonctionne leur enfant. Si vous souhaitez contacter l'association Respire Bourgogne, je vous donne son numéro de téléphone, le 09 83 51 00 87. Je répète, 09 83 51 00 87. Ainsi que son adresse mail, respire.bourgogne@gmail.com. Vous pouvez également aller sur son site, très très explicite. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais simplement rajouter, effectivement, bon, l'adresse du site, c'est respire-bourgogne.fr. Mais vous avez aussi sur ce site les dates de prochaines formations qui auront, la prochaine aura lieu du 30 mars au 2 avril. C'est une formation de base sur connaissance de l'autisme.
Très bien. Mais je vous remercie, Madame Garnier.
Merci à vous.